Il est 20h35, on a une minute de retard.
Ah oui, là.
Alors cette fois, on prend vraiment du retard, hein. 3 minutes là, ça va pas.
Mais tant que ça arrive...
Voilà, il faut le préciser. Ça reste très éthique. Donc je passe la parole à Geneviève.
Et bonsoir à tous. Voilà, donc moi je travaille à l'IFMAL. Il a très bien présenté l'Institut de formation du MAN. Voilà, nous travaillons sur la régulation non violente des conflits. Mais je vais peut-être dire quelques mots avant de commencer sur conflit, violence, non-violence, qu'on entend par là, pour qu'on se mette d'accord. Nous proposons des formations, donc soit sur site, dans des organismes, sur tout ce qui est prévention de la violence, communication, travailler avec des groupes d'enfants, par exemple. Enfin, voilà, c'est nos thèmes. Et on propose aussi des formations pour n'importe qui vient soit dans le cadre des DIF, droit individuel à la formation, soit individuellement, on a deux tarifs. Sur les thèmes, on en a une dizaine par an. Les formations sont de 2 jours, ou des ateliers le samedi matin, voilà, sur des thèmes différents. Alors nous n'avons pas la plaquette actuellement, c'est en train de se mettre à jour. Par contre, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez inscrire vos mails, on vous enverra par mail. Ce que nous proposons.
Et une information à disposition.
Oui, ça c'est juste, oui, cette plaquette c'est juste pour présenter l'IFMAN, qu'est-ce que c'est l'IFMAN. Voilà. Mais il n'y a pas les dates et les thèmes de nos formations sur ODES. Voilà, donc moi je ne suis pas une conférencière, c'est un peu stressant, faire tout ce monde. voilà, je suis formatrice avec un groupe de 12 personnes d'habitude où on propose des exercices, où il y a échange et tout ça. Donc je vais juste transmettre ce que je sais, ce que j'ai appris et ce que j'ai découvert aussi par l'expérience. C'est souvent le plus intéressant. Le thème, c'était donc sur comment faire ensemble dans le respect de soi et de l'autre. On avait ciblé un peu sur en association, voilà, quand on travaille dans des groupes, en association, dans les équipes de travail aussi. Il y a certaines choses qui peuvent aussi être intéressantes dans la famille. Enfin, quand on parle de communication, c'est partout la même. Hein. Ce que je voulais dire au début sur le fonctionnement, c'est plus dans l'association. Voilà, alors quand on parle de non-violence, c'est vrai que c'est un mot que je n'aime pas, même s'il est partout sur nos publicités, parce qu'on n'est jamais non-violent. Voilà, je dis, on va vers une moindre violence. Alors, pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est dans une situation donnée, quelle est l'attitude ou le comportement qui va faire que ça va être le moins violent possible pour tous. Voilà, mais il n'y a pas, si on fait ça, c'est non-violent, si on fait ça, c'est violent, enfin... C'est pas si simple, c'est beaucoup plus subtil que ça. Quand je parlais de conflits aussi, je ne parle pas des conflits internationaux, hein, ici c'est pas le, avec ce thème-là, je parle des conflits qu'on a tous les jours, avec ceux qu'on côtoie. Hein, ce n'est pas les gros trucs, des fois hein, ça peut être important. Voilà, mais tous les jours il y a quelque chose qui peut nous blesser avec voilà, la collègue qui dit une phrase. Ah, ça me fait quelque chose, ou dans la famille, ou ailleurs. Voilà pour le mot conflit. Le mot conflit n'est pas négatif en soi. Hein, c'est la manière dont il est géré qui va faire que ça peut être tout à fait destructeur, ou au contraire, source de progrès, parce qu'on va discuter ensemble et trouver quelque chose de plus adapté. Voilà pour le mot conflit. Donc, le conflit, ce n'est pas la violence. Quand nous parlons de violence aussi, bon, bien sûr, il y a les violences dures, hein, bon, on les connaît tous, hein, mais c'est aussi les petites violences. Voilà, quand je ne laisse pas l'autre s'exprimer, ben, c'est une violence pour l'autre. Quand je fais à la place, quand je ne fais pas confiance, quand voilà, plein de choses comme ça, où ce sont des petites violences, des violences cachées. Voilà, donc quand je parle de violence, là, ici, ce soir, ça va plus être dans ce sens-là, de conflit aussi, hein, que des coups de couteau, de je sais pas quoi. Voilà, c'est pas ce qui nous intéresse ce soir, ici. Alors, j'ai divisé d'abord sur d'abord le fonctionnement un peu, la communication, avec comment je dis et comment j'écoute. Voilà, et après de parler des blessures personnelles aussi, parce que c'est source de conflits. Très souvent, surtout voilà, quand on travaille ensemble dans un groupe. Je suis aussi psychothérapeute avec une méthode québécoise. Voilà, qui complète ce que j'avais fait sur les relations. Ça, très intéressant. Les deux, voilà, travailler ce qui se passe dans la relation, et travailler aussi ce qui se passe en nous. Parce que c'est vraiment lié. Voilà, quand on est blessé, c'est souvent les blessures personnelles qui sont réveillées. Voilà pour la présentation. Alors, je vais faire la différence entre le rôle et la fonction. Voilà, dans les groupes, entre autres dans les associations, si on n'a pas défini des fonctions précises, nous prenons des rôles. Hein, parce qu'il y a des choses à faire. Et si personne n'est désigné pour les assumer, automatiquement, spontanément, voilà, on va être dans un rôle. Par exemple, s'il n'y a personne qui anime, hop, il y a une personne qui va se mettre à animer parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. S'il n'y a personne qui gère les conflits dans le groupe, voilà, il y a quelqu'un qui va le faire. D'autres, ça va être sur leader. Hein, s'il n'y a pas des gens qui sont désignés, voilà, il y a quelqu'un qui prend le pouvoir. Voilà. Et ce sont souvent des prises de pouvoir à ce moment-là. Voilà. Ce qui est difficile, c'est que souvent, c'est mal perçu par les autres. Mais de quoi elles se mêlent ? Mais c'est elle qui décide tout. Alors que c'est dans une bonne intention. Tout à fait. Voilà, le rôle, c'est ça. Il y a le lanceur d'idées, le coordinateur, le critique, l'informateur, l'enquêteur, le secrétaire. Dans les rôles, il y a aussi sur le côté socio-affectif, réguler les conflits, assurer l'expression de chacun. Voilà, ces rôles correspondent à la satisfaction des besoins du groupe. Hein? Sauf que ça n'a pas été défini par le groupe. Voilà. Et donc, ce sont des prises de pouvoir. Très vite, ces conflits de pouvoir peuvent devenir des conflits de personnes. Voilà. Alors, pour éviter ça, mais c'est sûr que le mieux, c'est de définir vraiment les responsabilités et les fonctions. Parce que là, au moins, c'est limité et contrôlé. Souvent, ce qui pose problème aussi dans les groupes, c'est que dans les responsabilités et fonctions, on oublie des choses. Donc, il n'y a personne qui fait voilà, des tâches qu'il faudrait faire. Ou au contraire, il y en a deux qui font les mêmes choses. Donc, souvent, c'est à redéfinir. Qui fait quoi ? Ces fonctions doivent répondre aux besoins du groupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est de définir dans chaque groupe quels sont les besoins. Voilà, de quoi on a besoin dans ce groupe-là. Alors, je ne sais pas, dans les groupes où vous êtes, qu'est-ce que vous diriez ? Quels seraient les besoins d'un groupe ? Dans tous les groupes, on va trouver les mêmes besoins. Et après, il y en a de spécifiques, suivant l'association, hein, évidemment. Qu'est-ce que vous verriez dans les groupes comme besoin ? De quoi a besoin un groupe ?
Que tout le monde puisse prendre la parole, que les uns ne prennent pas la parole de façon abusive par rapport à d'autres, par exemple.
Voilà, alors c'est besoin de quoi pour ça ?
De réguler la parole.
D'un régulateur, oui. Animateur ou régulateur. Encore
de chacun, que chacun adhère à ce qui est décidé, une concertation, enfin que les décisions prises par le groupe soient bien validées par tous les gens du groupe.
Oui, donc là c'est un travail sur les prises de décision. Oui. Comment sont prises les décisions ? Non, oui, ça c'est à travailler.
On le sait que pour les statuts, il faut un président, un secrétaire, un, voilà.
Donc oui.
Ce sont des fonctions.
Ce sont
des fonctions. Ce sont des fonctions, mais ce ne sont pas les seules qu'il devrait y avoir. Et des fois, le président, ce n'est même pas ce qu'il doit faire. Le secrétaire, c'est plus simple. Voilà. Hein, oui. Non, mais le président, c'est un peu plus diffus. Voilà, c'est vraiment à définir.
Un observateur.
Un observateur, ça pourrait être. Voilà. Mais dans le groupe, il y a besoin de communiquer. Communication interne, communication extérieure, soit la pub, soit... Voilà. Entre autres. Dans le secrétaire, oui. Il y a besoin d'un secrétaire, d'un animateur. Un comptable. Oui, pour la gestion.
Un organisateur aussi, celui qui organise... pour des besoins, qui fait quoi?
Oui, qui planifie.
Oui, la
Quelqu'un qui compte?
Oui.
Qui compte tes sous?
Oui. Il y a besoin partout. Plus ou moins important, mais... la gestion, oui. Ben oui.
J'ai à peu près tout. Qui prépare les salles, qui met les tables, les chaises.
Oui, l'intendance. Tout à fait.
Celui qui est responsable pour notre bonne humeur.
Le fou du roi.
Le fou du roi.
Alors ça...
Ça c'est plutôt un rôle.
Oui, très bien. C'est le rôle quand c'est trop sérieux. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui fait rire, mais justement parce que le groupe, ça montre que le groupe c'est trop sérieux à un moment, donc il y a besoin de quelqu'un qui met de l'humour pour détendre un peu. Voilà, il y a aussi les orientations. Voilà, celui qui vérifie que ce qui est fait est bien d'accord avec les orientations de l'association. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette fonction-là. Ce qui est intéressant, c'est que chacun, au moins dans un bureau, ait une fonction. Voilà, même si c'est l'intendance, et c'est aussi important l'intendance, que le secrétariat, que celui qui s'occupe des orientations, voilà, avec des tâches définies. Alors pour chaque fonction, c'est bien de définir toutes les tâches qu'il y a à faire. Voilà. Et ce n'est qu'après qu'on choisit les personnes et non pas avant. Voilà, pour voir s'il y a les compétences, une fois qu'elle sait ce qu'elle doit faire, que la personne sait ce qu'elle doit faire, elle peut dire oui, ça je suis capable, ou ça non, je ne vois pas du tout, il faut utiliser l'informatique, je ne connais rien, c'est pas moi qui vais le faire. Voilà, mais souvent, on désigne les personnes avant de savoir ce qu'il faut faire. Voilà, moi, j'ai fait partie d'un groupe où on avait chacun une fonction. Je trouvais ça super intéressant. Et puis, je trouve que c'était cadré. Je savais ce que j'avais à faire. La communication, OK, c'était pas tout le reste. Voilà, avec les tâches que je devais faire. Et ensuite, quand on fait une évaluation ou une régulation, ça permet de dire, ben voilà, tu devais faire ça, ou c'est dans ta fonction de faire ça. Voilà, comment tu peux le faire, c'est pas fait. Voilà, ça permet une évaluation beaucoup plus facile. Je trouvais aussi que, oui, il y a quelqu'un qui s'occupait de l'intendance, achetait les petits gâteaux et le café. Voilà, mais elle le prenait vraiment à cœur, quoi. Elle faisait partie du groupe parce que, voilà, si elle ne le faisait pas, ben, il n'y en avait pas. C'est aussi important que le reste. Ce qui est intéressant aussi, c'est de fixer les marges de manœuvre. C'est-à-dire, la personne qui est au secrétariat, c'est à quoi elle peut répondre toute seule sans en référer au groupe, et quand est-ce qu'elle doit référer au groupe avant de répondre. Voilà. Ou celle qui est responsable des achats. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a 50 euros qu'elle peut dépenser sans demander l'autorisation? Enfin, voilà, que ce soit discuté. Ou alors, à partir de quelle somme, voilà, elle doit demander au groupe. Bon, ça permet d'éclaircir. Voilà, ça c'est pour le fonctionnement. Dans les réunions, dans tout groupe, il y a des réunions. Donc c'est bien de fixer un cadre de réunion. Donc, vous l'avez dit, veillez à ce que chacun parle à son tour, afin qu'il puisse s'exprimer. Donc ça, ça demande souvent un animateur. Voilà, sauf si le groupe est très petit ou si l'habitude de s'auto-réguler. Mais s'il n'y a pas d'animateur, il y a la personne plus timide qui ne dit jamais rien, celle qui parle toujours. Voilà. Un animateur qui ramène sur le sujet, sinon on parle en tous azimuts, on perd du temps, combien de réunions, on perd énormément de temps. Voilà, s'il n'y a pas quelqu'un qui dit, bon, t'es en train de parler de ça. Est-ce qu'on peut revenir à nos moutons? Je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que souvent, on écoute certaines personnes parce qu'elles parlent mieux, parce qu'elles sont plus cultivées, parce que voilà, elles sont socialement plus élevées que d'autres. Voilà. Dans un groupe, il y en a, quand elles parlent, on écoute, il y en a d'autres qui parlent, puis on n'entend jamais ce qu'ils disent. C'est vraiment à l'animateur de relever ce que la personne un peu timide ose dire, mais qui n'est pas entendue souvent. C'est nous, en formation, on met un cadre. Il y a quelque chose que je trouve important dans des groupes, c'est qu'il n'y ait pas d'accusation sur les personnes, de jugement sur les personnes. Voilà, et on peut très bien juger un acte, voilà, dire à la personne, mais tu avais dit que tu ferais ça, puis tu ne l'as pas fait. Et voilà, ça c'est un acte, ok. Voilà. Mais les jugements sur les personnes sont vraiment destructeurs. Voilà, par exemple, si on dit, oh, c'est toujours comme ça avec toi. Voilà. Au lieu de dire, par exemple, ça fait 3 fois que tu ne viens pas aux réunions. Voilà, ça, c'est quelque chose d'objectif. Je reviendrai après dessus. Voilà, et les prises de décision, c'est intéressant de savoir comment elles vont être prises. Voilà, enfin, les décisions, comment elles sont prises. Est-ce que c'est au vote? Voilà. Est-ce que c'est au consensus? C'est-à-dire on trouve la solution qui peut satisfaire le mieux toutes les personnes qui sont là. Voilà. Est-ce que tout le monde a été entendu? Est-ce que chacun a pu s'exprimer jusqu'au bout quand il n'est pas d'accord sur une décision qui est prise? Est-ce qu'on lui a permis de s'exprimer pourquoi il n'est pas d'accord? Voilà, de quoi il a peur, et qu'est-ce que c'est qui le rassurerait, voilà, de quoi il aurait besoin pour être rassuré si la décision est prise quand même. Voilà, parce que c'est vrai qu'au vote, on dit, ben, c'est la majorité, c'est vrai. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, souvent, sont un peu laissés de côté, quoi. Ils ne sont pas d'accord, et puis, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Et ce qui me paraît important aussi, c'est qu'il y ait des temps de régulation. Alors dans les réunions, il y a toujours, enfin je vois, chez nous, on a un tas de choses à aborder, de tâches à faire, à décider, des projets et tout ça. Mais c'est très rare qu'il y ait un temps où il n'y a pas de projet. On ne parle pas des projets, de ce qu'on fait, mais juste de ce qui se passe dans le groupe. Voilà. Alors ça peut être à partir des tâches. Voilà, par exemple, ben, je ne sais pas, il y en a un qui est responsable de la communication extérieure, et puis on voit que ben, les mails ne sont pas envoyés, ou ils n'arrivent pas à tout le monde, ou voilà, il y a un problème. Bon, ça peut être là-dessus. Mais ça peut être aussi sur ce qui se passe entre les personnes. Voilà, de pouvoir se dire, mais voilà, quand tu me parles comme ça, voilà, moi ça me touche, ça me blesse. Alors ça, bon, pour le faire, c'est vrai que c'est très délicat, je dirais, hein, de pouvoir dire à l'autre ce qui blesse. Ouais, je demande de le faire avec une méthode de communication qui ne soit pas agressive, voilà, ou ne soit pas sur le reproche et l'accusation, mais plus sur ce que ça me fait vivre. Voilà, quand ce n'est pas dit, parce que souvent on dit « Oh, c'est pas important, c'est pas grave », mais ça... c'est difficile pour la personne qui ne dit pas, voilà, et c'est difficile dans la relation. Parce qu'on en veut à l'autre, même si c'est un tout petit peu. Et ça va se sentir dans la relation. Voilà, donc, je vois, dernièrement, là, on prend un petit temps de régulation. Et c'est vrai que la secrétaire avec qui je travaille me dit « Oui, mais quand tu écris un mail sans mettre ni merci ni s'il te plaît, oh, ça me touche, quoi, j'aime pas ça. » Je dis « Mais bah, si c'est pas dit, ben, c'est vrai que je peux écrire des mails très rapidement en disant « Il faut faire ça, ça, ça. » Si elle me le dit, c'est sûr que je vais le faire. Hein. Voilà, c'est souvent des petites choses comme ça où on ne fait pas esprit de blesser l'autre. Pas du tout. Mais l'autre est peut-être blessé. Et souvent, on ne le sait pas. Si l'autre ne le dit pas, on ne peut pas le deviner. Ça, c'est clair. Donc, ça demande des temps où ça pourrait se dire. Donc, si elle me dit « Oui, moi, ça me blesse », voilà, je peux l'entendre. Si elle me dit « Oui, t'es pas poli, tu mets jamais... » Ouf, je vais être sur la défensive. Voilà, c'est là la différence quand on dit. Alors voilà pour la régulation. Alors, comment communiquer, comment dire voilà, ce qui me dérange, ce qui me gêne, ce qui me blesse. Je vais... voilà, juste commencer par un petit exercice. Voilà, je vous montre une photo. Voilà, c'est un peu rapide. Je vais la mettre là. Je vais vous demander ce que vous voyez sur la photo. Allez-y, vous me dites...
Un homme qui montre quelque chose.
Qui attire l'attention.
Qui attire l'attention, qui montre quelque chose.
Quelqu'un qui montre la lune et nous on regarde le doigt.
Non, mais qui, voilà, qui montre la lune.
On voit la mer.
On voit la mer.
Il parle à quelqu'un qui est à la face de nous.
Il parle à quelqu'un qui est en face, c'est ça? Oui. En fait, on a dit, il y a un homme sur un bateau.
Il demande de l'aide.
Il demande de l'aide.
Oui, il dit va-t'en.
Il dit va-t'en. On voit qu'il aime le doigt. C'est un Indien. Il fait chaud. Maintenant, je vais vous demander ce que vous pensez. En voyant ça, qu'est-ce que vous pensez?
Vivons les vacances.
Vivons les vacances.
Il n'a pas l'air de vacances.
Il est tranquille tout seul.
Tranquille tout seul.
Mais directif.
Directif.
Je pense qu'il n'est pas l'air content, je suis pas content.
Et qui cherche justement quelqu'un à attirer l'attention pour qu'il y ait quelqu'un qui soit en correspondance avec lui.
Voilà. Donc il y a plein d'autres choses que vous pouvez penser, il appelle à l'aide. Il... Voilà. Tout ça, ce sont nos pensées. Donc dans ce que vous voyez, tout à l'heure je vous ai donné ce que vous voyez, il y avait plein de pensées. Qu'est-ce qu'on voit exactement? Un monsieur
qui montre quelque chose.
Un monsieur qui tend le doigt, il ne montre même pas.
Il tend le doigt.
Est-ce que c'est la mer?
Le ciel est bleu.
Il y a de l'eau.
Le ciel est bleu.
Le ciel est bleu.
Le bateau, d'accord, oui. Le bateau est amarré et la mare va en direction de la personne qui a pris la photo. Alors, je sais pas, peut-être ça sort de l'image, ça veut peut-être, ça a peut-être une signification.
Il y a une corde devant le bateau.
Oui, voilà.
On ne sait pas s'il
y a marée,
parce que la corde est
amarrée. Non, on ne sait pas s'il y a marée. Pensez. Voilà. Après, on peut décrire les habits. Je ne sais pas si c'est un Indien. En tout cas, on peut décrire les habits. On peut dire la couleur de la peau. OK. Après, où il habite, je ne sais pas. Alors, c'est juste pour montrer. Allez, je vais en faire une autre. Hein, avant de dire. Celle-là, je l'aime bien.
Des mains.
Des mains, des bagues, on est d'accord?
De plusieurs couleurs, de plusieurs âges. Oui. Il est capable d'appuyer sur quelque chose.
Elles sont.
On dirait qu'elles se réchauffent.
Elles se réchauffent. Elles se réchauffent?
Non, moi je crois pas.
Il y en a 10. 10.
10.
À 10, oui.
Ok, là on peut dire oui ou non. C'est ce qu'on voit, oui, oui. Il y a des bagues, oui, il y a des bagues, ou à trois bagues.
Et ils ont des vêtements qui semblent pareils.
Ils se ressemblent.
Des manches.
Ils sont habillés.
Des manches.
Des manches, des mains,
oui. Dans les pensées, après on peut imaginer qu'ils se réchauffent.
Il faut tourner la table.
Des rituels.
La table.
Religieux peut-être. Alors, très souvent, dans notre communication, on mélange ce qui est la réalité, juste objective, et toute notre subjectivité que nous y mettons. Voilà. Par exemple, si vous voyez quelqu'un dans la rue que vous connaissez, qui ne vous dit pas bonjour, vous pensez à quoi ?
Il fait la gueule.
Qu'est-ce que j'ai fait ?
Il
m'en veut.
Il est préoccupé.
Il est préoccupé.
Il est bouffé parce que je suis pressée.
Il a la lune.
Il est miro.
Lui aussi.
Pourquoi ? Voilà. Mais on peut être très vite. Alors que le fait objectif, c'est il ne m'a pas dit bonjour. Là, on est d'accord, c'est objectif. Voilà. On peut être très vite dans l'interprétation de ce que fait l'autre. Voilà. Très très souvent, nous sommes dans l'interprétation de ce que dit ou fait l'autre. Voilà. Donc c'est comme pour les photos. Voilà, il y a quelque chose d'objectif, on sera tous d'accord. On va dire il y a un bateau, il n'y a pas de bateau. Ça reste sûr. Le fait sur ce qu'on voit, ce qu'on entend, ben, on sera d'accord. Dès qu'on interprète, voilà, c'est faux. Voilà. Notre pensée, et des fois, elle tombe juste. Oui, c'est un Indien. Notre pensée peut tomber faux. Enfin, oui, juste. C'est pareil dans la relation. Et nous pouvons voir que dans nos relations, nous sommes constamment dans l'interprétation de ce que fait et dit l'autre. Il le fait exprès. Il le sait pourtant. Et dans la réalité, l'autre ne le fait pas exprès. C'est juste qu'il n'y pense pas. Il n'est pas fait comme moi. Voilà, il n'a pas les mêmes choses qui sont importantes. Voilà. Donc quand je parle à l'autre, c'est de rester dans le premier point sur quelque chose qui est objectif. Par exemple, si je parle à un enfant, je peux lui dire, je t'ai vu donner un coup de pied à ta sœur. Si je l'ai vu. Hein, si je lui dis, tu es vilain, tu es méchant, tu es agressif. Voilà, je porte des jugements sur lui. Si je te dis, je t'ai vu donner un coup de pied et je ne suis pas d'accord, tout à fait, je peux dire très fort, je ne suis pas d'accord, je ne porte pas de jugement sur la personne. Juste ça, c'est interdit. Voilà, je t'ai vu prendre, je sais pas quoi, quelque chose qui n'est pas à toi. C'est pas un voleur, c'est juste, tu n'as pas le droit de prendre quelque chose qui n'est pas à toi. Tu vas faire la différence entre le jugement qu'on porte, voilà, et le fait. Donc quand je parle à l'autre, le premier point, c'est je vais partir sur ce qu'il m'a dit ou ce qu'il a fait, sans aucune interprétation et jugement. Voilà, pour qu'il sache de quoi je parle. Un deuxième point, je peux dire ce que ça me fait vivre. Voilà, ben ça me blesse, ça me met en colère, hein. Ça me fâche. Parce que ça peut être encore, des fois ça me fait plaisir, mais là, c'est facile. Ça me fait peur.
Mais oui, mais on ne le dit pas toujours quand ça fait plaisir.
Oui, on pourrait le dire, hein, souvent. Comment ?
On dit assez peu souvent son ressenti dans les réunions, dans les groupes, en dehors des relations intimes. C'est quand même pas habituel ou naturel, quoi.
Oui, parce que souvent on dit, mais on n'a pas à le dire, ou dans un travail aussi, ou surtout il ne faut pas montrer ses émotions, ses sentiments, sauf que c'est là. Voilà, c'est juste une réalité, c'est que c'est là.
Toi, de dire tu m'énerves.
Lorsque je dis que tu m'énerves. Comment je pourrais le dire,
hein?
Je suis énervée, c'est tout. Ah, c'est bien moi qui suis énervée.
Oui, mais on peut aussi dire pour une action. Si cette action que tu es en train de faire là m'énerve profondément. Bah, c'est pas la personne qui m'énerve, mais c'est ce qu'il est en train de faire. C'est...
Mais ça peut être, oui, quand tu fais ça, moi ça m'énerve. Voilà.
Oui, je ne supporte pas que tu fasses ça ou que tu parles.
Ça m'énerve que tu me le dises aussi.
Oui, mais c'est la différence entre la personne et l'action de la personne.
Voilà. Donc si on peut éviter tous les tu, ouais. L'autre est le déclencheur effectivement de mon agacement, de ma colère. Il est le déclencheur, hein. Je ne dis pas l'inverse. Il n'est pas responsable de ma colère. Moi non plus d'ailleurs parce qu'elle monte comme ça. Hein. Après je suis responsable de ce que j'en fais, mais pas de l'émotion quand elle est là. Par contre je peux taper sur l'autre ou je peux partir, là je suis responsable de ça. Hein. Mais l'émotion je ne la choisis pas. Alors tu dis quelque chose, hop, la colère qui peut être là, ou la peur, je ne choisis pas l'émotion dans laquelle je suis. Ça c'est clair. C'est une vraie émotion, sinon c'est une fausse. En troisième, je peux dire mon besoin. Bah, c'est clair pour moi, c'est ça le plus difficile, le besoin. Voilà. Mais ça pourrait être dans un groupe, moi j'ai besoin que tout le monde s'exprime. Ou j'ai besoin d'entendre tout le monde. Voilà, et en dernier, c'est la demande claire et précise. Alors ça aussi, on n'est pas habitué à faire des demandes, tout simplement. Voilà. Moi, pendant des années, j'ai pensé, quand j'avais beaucoup de travail à la maison, nous avons 5 enfants, que c'était évident qu'on allait m'aider. Puis bon, au bout d'un moment, quand personne ne vient parce qu'ils ne savent pas que j'ai plus de travail, ça m'agace. Je fais du bruit avec les casseroles, mais personne ne vient quand même. Pas très efficace. Bon, depuis, j'ai appris juste, oh, secours. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider à faire ça? Et puis ça marche. Ouais, ça marche. Je vais dire, c'était bien simple. Voilà, mais c'est vrai que ce n'est pas naturel. Juste de demander de l'aide ou de demander ce qu'on a besoin de manière très précise. Voilà, si je veux qu'on vienne m'aider, mais souvent l'autre ne sait pas trop. Est-ce que tu peux faire ça, ça ou ça? Voilà, c'est beaucoup plus clair. Les demandes dans les groupes, ça peut être des fois, mais j'aimerais qu'on en discute. Voilà, pour moi, il y a un problème là. Voilà, est-ce qu'on peut avoir un temps pour en discuter? Voilà. La demande, pour moi, c'est pas « je veux que tu fasses ça ». Quoi. Ça peut être ça, hein, dans quelque chose de précis. Mais dans une relation, c'est souvent... voilà, il faudrait qu'on mette quelque chose au point, on a besoin d'en parler. Voilà. Quand je dis précis, j'ai un exemple avec mes enfants, bon, c'est pas dans un groupe, mais c'est, on avait une entrée, quand on avait 5 enfants, donc ça fait 7, les chaussures étaient dans l'entrée comme ça. Bon, on avait acheté un meuble, mais apparemment. Non, un jour, je dis, j'aimerais que vous rangiez vos chaussures. Elles étaient rangées le long du mur, il n'y a pas de problème. Voilà, mais c'était pas très précis, voilà, de dire, j'aimerais que les chaussures soient dans le meuble quand vous les quittez. Ok, sauf que ce que nous, on a envie, c'est bien que ce soit négociable. Ils m'ont dit, oui, mais quand on rentre pour 5 minutes, on n'a pas envie d'enlever les chaussures. L'été, quand il ne pleut pas, on n'a pas envie d'enlever les nu-pieds. Voilà. C'est ça. Ok. C'est d'accord, quand il pleut, voilà, et que vous rentrez pour tant de temps, je demande que les chaussures soient enlevées, le reste du temps, ok, c'est négociable, vous n'enlevez pas les chaussures. Voilà. Donc pour nous, c'est de voir qu'est-ce que c'est qui est négociable ou pas. C'est pareil dans les groupes. Voilà, qu'est-ce que c'est qui est vraiment important ou pas négociable, qu'est-ce que c'est, effectivement, c'est normal que chacun puisse exprimer ses besoins. Alors, ce serait bien qu'on prenne des exemples, mais là, je... je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a un exemple où il aurait quelque chose à dire à une personne qui est dans un groupe avec lui? Voilà, pour qu'on le voit ensemble, comment on pourrait le dire? Vite, si vous pensez à quelque chose qui vous vient, dans un groupe, il y a une... vous auriez envie de dire quelque chose à quelqu'un.
J'ai une collègue qui commence presque toutes les phrases avec « je t'explique ».
Ça m'énerve. Ok, voilà. Alors, comment tu dirais? Premier point, c'est donc l'effet objectif. C'est quoi? On l'aide. Il y en a qui ont fait la communication non violente, là, j'ai entendu. Alors, comment il pourrait dire hein?
Ce qu'elle ressent déjà.
Alors, c'est un deuxième. Alors.
Pourquoi tu l'interroges? Pourquoi tu dis je m'explique?
Non.
Quand tu dis ça?
Quand tu dis
je t'explique.
Je
ressens.
Après, ça. On l'a vu?
Ça m'énerve.
Ça m'énerve.
Je suis énervée.
Alors, quel est le besoin derrière? Est-ce qu'on pourrait voir quel est le besoin derrière? C'est quoi le besoin?
M'explique pas. Parce qu'elle le sait aussi. Mais c'est cette attitude de se mettre
en avant,
plus haut que l'autre. Parce que je t'explique. Toi, tu sais rien, moi, je le sais. Et cette attitude, ça
me... C'est tellement éthique verbale. C'est pas forcément une attitude.
Ah oui, peut-être.
C'est
oui.
Ce que je pense.
Ça, dans, c'est l'interprétation là. L'attitude qui se met au-dessus. En fait, on ne le sait pas. Peut-être, hein. Voilà, je ne dis pas que c'est pas vrai. Peut-être, peut-être pas. Peut-être il dit je t'explique, je ne sais pas pourquoi, mais.
Il dit je t'explique.
Une manie.
Donc, quand tu dis je t'explique, voilà, donc il le dit souvent. Alors, moi, ça m'énerve. Parce que, alors, on voit un peu le besoin qu'elle a, c'est d'être au même niveau.
D'être que tu me rabaisses, enfin, que tu me mets plus bas. Il me semble que je suis plus bas que toi.
Voilà, moi, je le vis comme ça, en tout cas. Hein, parce que c'est pas lui, là, mais pas comme ça.
Non,
moi, je le vis comme si j'étais inférieure. Ouais. Ouais, alors, j'ai besoin d'égalité.
Non, c'est ce qui m'intéresse, c'est comment je peux le dire sans
lui rentrer dedans.
Sans lui rentrer dedans, exactement.
Alors vas-y. Tu m'as entendu, vas-y.
Non, je ne sais pas.
Donc, quelqu'un le fait à sa place. Vas-y,
oui.
Je vais.
Oui. Mais quand j'entends, je t'explique. Je me sens plus basse que toi.
Et je pense que c'est pas le cas.
Ah non,
moi,
c'est
moi,
ça m'agace. Ça m'agace.
Il faut mettre des sentiments après, mais ça met en colère, ça m'irrite.
Il faut mettre le vrai mot. Parce que si c'est de l'agacement, c'est pas pareil.
Je colère.
Hein, ça ne fait pas pareil si je suis furieuse.
Ouais, ben, la bière, c'est tout.
Agacée, c'est ça. Énervée. Mais je ne sais pas, voilà, c'est la personne qui sait. Elle va savoir pour elle.
Parce qu'elle a fait répétition, elle a dit aussi. C'est toutes les fois, oui. Je vais souligner que c'est beaucoup de fois.
Oui.
Quand tu dis 10 fois dans une heure ou dans une journée, je t'explique, j'ai l'impression que tu as toujours quelque chose à expliquer, que tu as souvent quelque chose à expliquer. Et
voilà, moi, ça m'agace.
Ça me met en colère parce que j'ai l'impression que je sais moins que toi. Et,
c'est ça.
Je suis pas à hauteur.
Oui, voilà, moi, c'est ce que je ressens.
Je pense qu'il faut être plus précis que de dire. Tu as dit 10 fois aujourd'hui. Je veux dire, ce matin, à tel moment tu l'as dit, tu l'as redit à tel moment, tu l'as redit à tel moment, parce que ça, c'est pas contestable.
Oui.
Je dis que si tu dis, tu l'as dit 10 fois, il peut te dire, ah non, je l'ai dit 9.
Plus on est précis, effectivement, plus c'est intéressant, parce que la personne ne s'aperçoit même pas. La plupart du temps, la personne ne s'aperçoit pas. Si on le lui dit, effectivement, elle va dire, ah.
Il faut lui dire, explique-moi.
Ça pourrait être, est-ce que tu peux dire je m'explique?
Oui, ça pourrait être ça. Voilà, la demande, on la fait ou pas, suivant qu'il y ait besoin. Bon, là, il n'y a peut-être pas. Enfin, moi, je ne ferai pas de demande là. Je dirais comment ça m'agace. Alors, très souvent, une personne qui dit ça, je t'explique, ne pense à rien quand elle fait ça. Enfin, pourquoi elle le fait, j'en sais rien, est-ce que c'est un enseignant peut-être, mais c'est... Oui, je l'étais aussi, donc je me permets.
Oui, c'est comme cette écouter à la radio, pour gagner un peu de temps avant de répondre, ils disent écouter. Je fais que ça à la radio. C'est pas la peine de me laisser.
Alors, quand on dit quelque chose à quelqu'un, souvent j'entends ça. Oui, mais je l'ai dit, mais l'autre n'en tient pas compte. C'est que pour l'autre, souvent, c'est pas important. Enfin, pour moi, c'est important. Voilà, par exemple, s'il dit, je t'explique. Voilà, si je suis à la place, je ne sais plus ton prénom.
Léna.
Pour moi, c'est important, parce que ça me blesse, enfin voilà, j'aime pas ça. Mais lui, il le dit comme ça, il va oublier. Donc ça demande, quand on l'a dit, de revenir souvent. Je t'ai déjà dit, quand tu me dis, je t'explique, moi ça m'agace. Ou quand on fait une demande à quelqu'un, on le dit une fois, puis on pense que ça suffit. Mais non, ça suffit pas. On demande souvent d'y revenir. C'est pas parce qu'il le fait exprès. Mais non, pas du tout. C'est que pour lui, c'est moins important que pour nous, bien sûr, puisque lui, ça ne le blesse pas. C'est pas quelque chose qui le touche, ça. Voilà, s'il le fait comme ça, c'est... dans la communication, il est bien aussi de vérifier. Voilà, ça, c'est un outil, je trouve, sur la régulation des conflits. Là, ça pourrait être, mais je prends cet exemple parce que tu l'as donné. Hein, mais, voilà. Quand tu dis « je t'explique », est-ce que tu penses que je ne sais pas, ou que je ne comprends pas, ou que juste d'aller vérifier. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu dis ça? Parce que très souvent, on va interpréter voilà, ce que dit ou fait l'autre. Donc si on va vérifier, je ne sais pas, on a un ami où on s'appelle toutes les semaines, et puis pendant un mois, voilà, l'autre n'appelle pas. Là aussi, on peut partir dans les idées, qu'est-ce que j'ai fait, détaché, tout ça. Ou juste aller vérifier, tiens, ça fait un mois, on ne s'est pas appelé, ou je ne sais pas quoi, je te donne des exemples comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et on voit dans la plupart des cas, moi, chaque fois que je l'ai fait, c'était complètement différent de ce que j'avais imaginé. Et l'autre était vraiment étonné de ce que j'avais pu imaginer. C'est complètement à l'opposé. Bon, mais c'est ce qui crée les conflits si on ne vérifie pas. Sur l'écoute...
Il se peut que le conflit reste quand même. C'est qu'on peut vérifier et voilà, que l'autre peut dire après.
Je vais vérifier. Alors, je prends l'exemple, bon, une amie, hein, d'habitude, où, je sais pas, on se voit ou tout ça, puis pendant 3 mois ou 1 an, on n'a plus de contact ou je sais pas quoi. vérifier, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre relation qui te gêne, qui t'a gêné, parce que je vois que ça fait un an qu'on ne s'est pas vu, alors qu'on se voyait tous les mois avant. Non, elle peut dire... Oui.
Je pense qu'à notre cas, il y a par exemple un collègue aussi qui m'envoie plein de mails, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Enfin, c'est sa façon de communiquer. J'ai un premier essai, cette façon de communiquer, moi ça me renvoie, j'ai l'impression de recevoir des ordres, je ne peux pas accepter ça. Voilà, je refuse cette façon de fonctionner.
D'accord.
Et j'insiste, donc je monte un peu dessus, et puis après, c'est je ne réponds plus à des mails, pas désagréable. Bon, d'accord. Bon, la fin, on se croit. Et bien voilà, ça m'avait arrivé au lycée, puis on se dit même pas bonjour, quoi. Enfin, c'est un peu con. Mais voilà, je suis complètement coincée avec ça. Mais j'ai essayé de voir qu'est-ce que moi je n'entendais pas, parce que la personne, bien sûr qu'elle n'entend pas, mais. Elle n'arrive qu'à parler comme ça, enfin, voilà, donc je ne sais pas vraiment pas comment aborder le truc. Mmh. À la fin, pour moi, c'est un conflit, dans la mesure où on est à côté de la machine à café, on ne se parle pas. C'est un petit peu violent pour moi. Enfin, ça ne m'est jamais arrivé. Mais franchement, sinon, c'était à deux doigts de harcèlement moral, ça parle. J'ai dit non, c'est à quelle faire toi-même. Enfin, si tu ne veux pas changer de langage, moi, je ne peux pas accepter ça. Même d'accord. Le proviseur ne parle pas comme ça, quoi. Donc, mais du coup, on se parle plus. Et ça ne me satisfait pas non plus.
Mais peut-être parce que ça reste dans le tête-à-tête. Il faut peut-être élargir.
Mais elle refuse, elle ne parle plus. Voilà, j'ai tout gagné. Quoi. Voilà. Enfin, je ne sais pas, elle peut penser qu'il n'y a plus de conflit dans la mesure où on s'évite. Mais pour moi, on n'a rien résolu. Et voilà, je ne sais pas.
Donc, comment tu lui as dit que tu n'étais pas d'accord avec la manière dont elle écrivait ?
Au début, plus gentiment. Après, moins gentiment. Enfin, j'ai dit que... Enfin, au début, j'essayais de parler de moi, de dire, voilà, moi, je reçois tes mails comme des ordres, j'ai du mal avec recevoir des ordres. Est-ce que tu peux formuler des choses autrement ? Je viens collaborer, faire des choses tout ça ensemble, mais voilà, autrement. Quoi. Et je ne supporte pas d'être contrôlée, mais voilà, genre, ça peut me renvoyer à des choses. Enfin, voilà, je n'ai plus l'âge comme on commande. Enfin, c'est un peu monté comme ça. Même un proviseur ne parle pas sur ce ton, et après, c'est de toute façon, un mot de plus, et c'est du harcèlement moral. Et voilà, enfin, voilà, donc j'ai dit, mais à un moment, me protéger, parce que ça n'arrêtait pas.
Et tu lui as dit par écrit ou par
oral ? Par écrit, parce qu'à l'oral, j'ai essayé à l'oral, mais elle a dit, je ne te réponds pas à tes mails parce que je ne veux pas être désagréable. J'ai essayé de dire, bah, écoute, sois un petit peu désagréable, on peut s'expliquer. Ben non, voilà. Alors du coup, moral de l'histoire, elle ne parle pas, donc du coup, il n'y a pas de conflit, de son point de vue, pour moi. Il y a quand même, je suis en train de discuter avec, je dis toujours la machine à café, voilà, d'autres collègues arrivent et ben voilà, c'est bien long.
Oui, mais il y a des conflits qui parlent. Il y a des conflits qu'on ne peut pas résoudre.
Ben je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de volonté. Peut-être que pour elle, c'est pas violent, qu'elle n'en a rien à foutre. Mais moi, je trouve ça violent de dire à quelqu'un né à l'école, ça ne veut pas dire bonjour. Faire comme si...
Comment tu pourrais lui dire ça?
Ben, moi, j'ai dit salut quand même, elle ne répond pas. Je ne sais plus quoi dire. Moi,
voilà. Moi ça me gêne vraiment quand tu ne parles pas. C'est ça que tu dis. Souvent, c'est de dire vraiment ce qu'on vit, tout simplement. Quoi. C'est très simple.
Ah, je pense,
moi, je suis vraiment gênée quand tu ne parles plus. Alors, j'aimerais qu'on puisse.
Mais oui, mais le problème, c'est que oui, peut-être que là, c'est ma faute à moi en disant que je veux bien qu'on se parle, mais pas sur ce ton-là. Je veux dire, elle n'a pas mes amis, donc c'est ça qui rend la chose difficile.
Oui, mais sans que ça aille jusque-là, vous pouvez parler devant le café, sans être dans le,
dire que le ça travail gêne, ou les mails et tout ça.
Juste, voilà, qu'il y ait au moins une relation. Ouais. Des fois, on ne peut pas travailler ensemble, mais on peut garder la relation.
Tu as déjà essayé d'expliquer par écrit avant.
Ouais.
Tu as déjà essayé.
Ouais. J'ai essayé.
Oui, mais c'est resté sur les mails.
Hein. Ça, voilà, ça, elle n'entend pas, elle a ce fonctionnement.
Alors.
C'est un peu, on se renvoie sa figure. Elle peut dire aussi que c'est moi qui n'entends pas. Mais voilà.
Il va y avoir un arbitre extérieur qui aide à. Non, mais je ne sais pas, parce que tu dis tout le monde s'en aperçoit.
Ben, les gens qui nous aiment bien, de toute façon, pour eux, c'est nos affaires, hein, puisque je ne suis pas pour partie, c'est normal. Donc on s'ignore et c'est un peu frustrant. Enfin, je l'ai vu comme un échec de communication.
Alors, il arrive effectivement que dans les conflits, on n'arrive pas à trouver une solution voilà, qui soit ou ben, l'entente, ce que tu dis, puis l'inverse. Mais des fois, ce n'est pas comme ça. C'est juste, est-ce qu'on peut quand même garder une relation?
C'est parce que quand t'es en relation, si tu dis bonjour à la dame, peut-être, enfin moi j'ai dit
bonjour. Tu dis bonjour, elle ne répond pas. Voilà, je peux dire, voilà, moi, ça me gêne cette relation, voilà, qu'on ne puisse pas au moins discuter devant un café de choses et d'autres. C'est tout, hein, rester là. Bah, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est toujours ce que ça nous fait vivre.
Non, mais c'est la salle des profs, c'est la machine à café. Quoi. Oh. Je veux dire, ben là, c'est vité. C'est voilà. Non, mais arrive à la même heure.
Mais si tu ne peux pas changer l'autre, tu peux changer ton attitude. Tu peux changer ton ressenti.
Oui, j'ai fini par être indifférente. C'est ça, mais je suis...
Bah, c'est beaucoup mieux.
Oui, c'est vrai.
C'est déjà beaucoup mieux que d'être frustré, non?
Je suis arrivée là, mais c'est pour moi, c'est un échec quand même.
Est-ce que de se blinder, c'est bien?
Voilà, c'est ça. Quoi. Non,
mais est-ce qu'il n'y a pas des incompatibilités de personnes?
Ça peut être indispensable.
Je me protège. Mais
ce qui est à voir, c'est est-ce que c'est une fuite? Ou est-ce que je choisis de ne plus fréquenter cette personne hein, parce que c'est trop difficile pour moi, pour me protéger? C'est différent. Voilà. Quand c'est une fuite, ça reste à nous, le conflit, hein, voilà, on est mal. Quand je choisis effectivement de dire, voilà, j'ai moins de relations avec cette personne parce que vraiment, on n'arrive pas, voilà, c'est différent quand on le vit bien. C'est pas toujours évident de repérer ça.
C'est ce que des fois, dans le conflit qui sont là depuis X temps, parce que de faire quelque chose que l'autre, qui est totalement surprenant pour l'autre, de faire exactement le contraire que l'autre pense que tu vas faire, ça peut super aider. Tu changes le côté, pop.
Alors, ce que nous pouvons changer, c'est notre attitude, on ne peut pas changer l'autre. Voilà, ça c'est clair. La seule chose que nous avons du pouvoir, c'est sur notre attitude à nous. Voilà. Bon, souvent, nous avons les mêmes attitudes. Hein, voilà, quand on est dans un conflit et tout ça. Hop, oui, effectivement, je trouve une autre façon d'agir, toujours dans le respect, je dirais, de l'autre et de moi. Voilà, c'est vraiment là-dessus. Comment je peux rester? Mais oui, je ne m'entends pas avec tout le monde. Non, je ne suis pas obligée d'aimer tout le monde. Ce n'est pas du tout ça. Est-ce que je peux respecter quand même? Est-ce que je peux respecter cette personne, même si c'est difficile? Même si c'est extrêmement difficile pour moi.
Excusez-moi.
Oui?
Mais si dans la fonction du travail, on parlait de l'importance de définir les besoins et tout, il y a besoin de communication. Donc là, ça relève quand même, comme disait la dame, quelqu'un d'extérieur qui doit... aider à résoudre ce conflit, si ça empêche d'avoir un travail efficace.
Si c'est dans le cadre du travail, oui. Oui. Et souvent dans un conflit, le tiers vraiment permet de... Des fois, on n'y arrive plus dans un conflit. Hein. On est trop dedans. Voilà, c'est une personne extérieure qui ne prend pas parti. Hein, c'est-à-dire qui est médiateur et qui surtout ne prend pas parti. Oui, ça va être une aide. Ouais, des fois, on est obligé d'en passer par là. je vais dire quelques mots sur l'écoute. Oui, pardon. Oui.
Je peux rebondir sur ce que, je ne sais pas, la dame expliquait, mais en fait, selon la fonction dans laquelle on se trouve, on ne va pas avoir une relation de sympathie ou avec l'interlocuteur. Donc peut-être que des fois, on mélange un petit peu les choses et qu'en l'occurrence, il y avait un message plus professionnel, purement professionnel qui a été envoyé. Et qu'elle n'a pas reçu, elle a reçu ça de façon affective. Enfin, il faut se poser la question sur le type de la relation qu'on a avec l'autre, dans quel contexte, c'est enfin,
oui, mais
mélangé. Oui, c'est tout à fait, c'est ce que j'essayais de communiquer, que c'était, j'ai entendu ça sur un autre registre, qu'il ne faut pas s'adresser à moi comme ça.
y a des gens qui sont purement dans leur fonction et ils sont super bons, super pertinents.
Sauf que
ils
c'est
en
pas
sont
le cas.
Peut-être même brusques parce qu'ils vont directement à l'essentiel, ils peuvent être bruts. Mais c'est pas intentionnel. Quoi.
Oui. Mais là, c'est un collègue, ce n'était pas quelqu'un. C'est une position hiérarchique qui aurait pu lui donner des ordres, à la limite. Voilà. Mais là, ce n'était pas le cas.
Oui,
pour travailler ensemble. Sur l'écoute, je vais dire quelques mots sur l'écoute. Alors, souvent, nous pensons savoir écouter. Donc, moi, je pensais savoir écouter parce que je suis plus à écouter qu'à parler, sauf quand je suis là, mais dans un groupe, je suis plutôt dans l'écoute. Mais l'écoute, ce n'est pas seulement se taire. Déjà, c'est un premier point, se taire.
C'est le vent, je vais rentrer.
L'écoute empathique, c'est pouvoir deviner, ressentir ce que peut vivre l'autre. C'est se laisser toucher par ce que vit l'autre. Même si moi, je ne suis pas du tout, je suis pas du tout dans la même émotion que ce que lui vit. Hein? Voilà, par exemple... j'ai eu une maladie grave et puis l'autre me parle de sa grippe là. Voilà, puis il est très malheureux parce qu'il ne peut pas aller travailler ou je ne sais pas quoi. C'est comment je peux quand même écouter ce que l'autre vit. Même si moi je pense que ce n'est pas important, qu'il y a bien plus important et tout ça. Parce que c'est toujours comme ça. Hein? Ce qui est important, c'est ce que vit la personne. C'est pas... le fait objectif, là, je dirais. Par exemple, une fois, j'ai reçu une personne qui me disait qu'elle était malheureuse, mais vraiment malheureuse comme tout, parce que ses enfants étaient loin. Bon, je pensais que le mien devait être beaucoup plus loin que les siennes. Voilà, mais elle était malheureuse, quoi. Et ce qu'il y a à entendre, c'est que elle, pour elle, c'est insupportable. Même si moi, je vis tout à fait autre chose. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile. Voilà, de pouvoir... juste se mettre à la place de l'autre dans ce qu'il vit. Voilà, donc c'est ça l'écoute empathique. Et lorsque la personne est entendue dans ce qu'elle vit, c'est « qu'est-ce que ça fait du bien ?» Voilà, sans conseil, sans jugement, voilà, sans question, même si je n'ai pas tout compris, ce n'est pas important. C'est juste, voilà, j'entends par exemple que c'est difficile pour toi en ce moment. Où j'entends que ben, tu es très heureux parce que c'est pas quoi l'émotion qu'il y a derrière dans ce qui est raconté.
Et quand tu disais, Geneviève, qu'il ne fallait pas seulement écouter, il faut reformuler ce qu'on,
oui.
Il faut reformuler ce
oui.
qu'on entend.
Parce que si je reste là, à écouter, puis l'autre parle, et si je dis rien, moi quand ça m'arrive, j'ai l'impression de parler à un mur. Mm-hmm. C'est ça que ça me fait. Voilà. Alors, il y a l'attitude physique hein, qui fait qu'on voit si on est écouté ou pas. Il y a des hochements de tête, il y a des... mais à un moment, si l'autre reformule ce que je dis, l'essentiel et pas tout ce que j'ai dit, voilà, juste une phrase qui synthétise ce que j'ai dit, ben, je me sens entendue ou pas. Voilà. Si c'est juste, je vais faire... on le voit de suite, hein, là je reformule juste. L'autre, oui, c'est ça. Si c'est pas juste, c'est pas très grave. Il va dire non, c'est pas ce que je voulais dire. Et puis il réexplique.
Même s'il n'ose pas dire, c'est pas ce que je voulais dire, on le voit.
Oui.
Parce qu'il y a des gens, ils osent pas dire. Mm. Mais non, t'as pas en fait, c'est t'as pas compris ce que j'ai dit. Mm. Mais ils osent pas le dire. Mm. Et même s'ils disent pas avec des mots, on le voit sur
oui.
le visage.
Ça se voit sur le visage.
Il y a le langage.
Ah oui.
Il y a quelque chose qui ne voilà. pas compris.
Parce que quand on reformule juste, il y a vraiment soit le sourire, ouais. et il y a un oui, c'est ça.
Ouais.
Automatiquement. Ouais. Voilà. Quand c'est pas tout à fait juste, personne ne fait.
Ouais,
voilà. Ouais. Ça se voit sur son visage. Donc là, on peut revenir. Oui, c'est peut-être pas tout à fait ce que tu as dit. Oui.
Ça, c'est ce que j'ai appris à l'école, la reformulation, mais bon, c'est un peu des recettes. En fait, dans la vraie vie, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on reformule parce que c'est une façon d'interrompre aussi. Et moi, j'ai remarqué, donc c'est devenu l'habitude, parce que c'est ce que j'ai appris à l'école et j'ai été formée comme ça. Mais j'ai remarqué que dans la vraie vie, il y a des gens qui apprécient, et puis il y en a d'autres que ça les coupe, quoi. Et ils n'aiment pas être coupés, ils n'ont pas envie de savoir, en fait, si j'ai compris bien ou pas. En fait, ils ont envie d'exprimer ce qu'ils ont à dire. Donc, il y a un peu des recettes comme ça qui ne sont pas forcément... Enfin, oui. Qui sont à remanier, je veux dire.
Tout à fait. Hein.
À confronter à la vraie vie.
C'est beaucoup plus subtil que ce que je dis. Hein, là, voilà, c'est très grossier. La reformulation, ce n'est pas tout ce que dit l'autre. La reformulation, ce n'est pas n'importe quand. Je ne coupe pas l'autre quand il parle. Hein, c'est juste à des moments voilà, où je peux dire un mot. La reformulation, souvent, c'est un mot. Ça suffit. Le mot le plus important. Tu es en train de me dire... Je dis un mot des fois. La reformulation, c'est souvent l'émotion. Voilà. Et ça parle toujours. Voilà. Chaque fois que je reformule l'émotion, si elle a été dite, si c'est juste... l'autre se sent entendu. Voilà, donc effectivement, c'est pas tout reformuler, sinon ça fait perroquet. C'est vraiment pas ça. C'est juste montrer un moment que j'ai été présente, voilà, que j'ai entendu ce que me dit l'autre. Bon, c'est pas non plus dans tous les cas. Hein? Voilà, si je pars avec une copine, on va parler d'un voyage, je sais pas quoi. Bon. C'est ça. C'est surtout quand l'autre se confie à nous. Voilà. Mais dans les groupes, les associations, je trouve que c'est important aussi. Hein, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord, par exemple. De reformuler, là, tu es en train de dire que tu n'es pas d'accord avec le projet. Comme ça, il pourra préciser pourquoi il n'est pas d'accord. Là où... ça peut être sur... voilà, je sais pas quoi, mais... souvent dans des groupes, je trouve, ou des réunions, chacun parle, chacun dit son idée, puis ça reste comme ça, quoi. Je trouve que c'est dur. On en fait quoi de tout ça? C'est pas repris, c'est pas... Voilà, ce serait intéressant que chacun, tu dis ça, toi tu dis ça, toi tu dis ça. Voilà, que ce soit reformulé, je trouve que ce serait super intéressant. Bon, pas tout ce qui est dit, mais ce qui paraît important. Sinon, on a l'impression, on a une cacophonie.
C'est le rôle de l'animateur, ça, dans ces cas-là.
Oui, oui. Le rôle de l'animateur, de synthétiser,
faire
un bilan, reprendre. C'est pour ça que l'animateur est nécessaire.
Oui. Moi, je dis rôle ou fonction de l'animateur.
S'il n'y a pas la fonction, il y en a un qui prend le rôle.
Ouais. Non, je pense, c'est ce que tu dis tout au début, que ça peut, dans un associé, ça peut être bien de se mettre d'accord. Ce soir, toi, tu fais l'animateur.
Oui,
et c'est ta fonction. Tu as ça à faire.
Oui.
Et tu as le droit d'interrompre, tu as le droit de synthétiser.
Tu es missionné pour ça.
Oui.
Tu l'as pour ça ce soir.
Je
trouve ça très bien.
Moi, je voudrais poser la question. En fait, là, vous parlez de la communication quand on est à un niveau identique, de propre à propre. Mais comment se passe la communication quand il y a un rapport hiérarchique ou un rapport, justement, moi je pensais aux personnes âgées, un rapport de faiblesse par rapport à quelqu'un, quoi. Ben, si la personne n'est pas en même... Ben, je pense aux vieux, surtout, qui sont souvent maltraités, pas dans la maltraitance forcément physique, non, mais maltraités verbalement. Moi, je l'ai vécu dans ma famille, où on ne tient pas compte de la parole de la personne âgée qui se plaint, bon, qui est beaucoup dans la plainte, et à qui on reproche la plainte de façon violente, et non pas jamais en reformulant « j'ai compris que tu souffres » ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est vraiment très violent dans ces cas-là. Très, très violent.
Bon, à distinguer la personne qui se plaint tout le temps, hein, voilà, il y a des personnes qui sont toujours dans la plainte, la personne qui dit quelque chose de difficile ou c'est souffrant et tout ça. Effectivement, je ne sais pas si vous avez remarqué, les personnes qui répètent les mêmes choses, souvent, c'est qu'elles n'ont pas été entendues. Alors c'est vraiment marrant dans les jeux de rôle, quand on les fait sur l'écoute, une personne parle de quelque chose. L'autre reformule, mais elle ne reformule pas l'essentiel, ou elle ne reformule pas quelque chose. Elle va le redire. Et chaque fois qu'elle le redit, c'est que c'était important pour elle. Donc si on ne l'a pas entendu la première fois, la deuxième fois qu'elle le redit, alors là c'est que, oh, j'ai loupé quelque chose, vite, je vais reformuler ce qu'elle est en train de me dire. C'est spontané, voilà, ça vient automatiquement. Alors, la personne qui n'est jamais entendue, hein, dans ses souffrances, dans ce qu'elle vit, eh bien, elle va ravacher parce qu'elle n'est pas entendue. Voilà, je suis tout à fait d'accord.
Oui. Je trouve encore plus violent, quoi, parce que c'est des personnes affaiblies par l'âge, oui. Par...
Bon, les enfants seraient pareils.
Hein. Oui, c'est pas des gars laïcs.
Alors que ce sont justement les personnes qui ont le plus besoin d'être accueillies,
oui.
Parce qu'ils vivent plus que les autres. Un mot sur la médiation, voilà, à partir de l'écoute. Donc quand on veut être médiateur dans des associations, dans les groupes, c'est important de temps en temps de faire un médiateur. Le médiateur ne prend pas parti. Le médiateur, c'est celui qui écoute un, qui écoute l'autre, et qui permet à chacun de se reparler, aux deux de se reparler. Donc, c'est par exemple, ben, je sais pas, il y en a un qui se plaint de quelque chose, c'est de dire à l'autre qu'est-ce que tu as entendu qu'il vient de dire, surtout avec des enfants, je pense. Voilà, où est-ce que tu as entendu ce qu'il vient de dire. Et l'inverse, voilà, et petit à petit, ça permet de, voilà, que la parole soit de nouveau entre eux, que moi je puisse me reculer, je ne sers plus. Donc c'est ça le rôle du médiateur. C'est surtout sans prendre parti, sinon ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher sans prendre parti. Voilà, puis ça va. Je vais terminer par les blessures personnelles. Alors nous avons tous des zones de sensibilité en nous. Voilà. Qui ont été provoqués dans notre enfance la plupart du temps. Hein. Et quand on y touche, voilà, c'est comme une blessure. Hein, quand on s'est fait mal, qu'on a une cicatrice, voilà, si on nous tape dessus, ça fait mal. Mais c'est pareil. Donc l'autre est le déclencheur. Voilà, il réveille ses blessures. La plupart du temps, il ne connaît pas nos blessures. Nous-mêmes, souvent, on ne les connaît pas. Mais, voilà, chaque fois, ça nous fait mal. Alors, nous n'avons pas les mêmes, hein, mais nous en avons tous. La plupart du temps, nous n'en sommes pas conscients. Si on ne fait pas le travail sur nous, on n'en est pas conscient. Juste, on n'est pas bien, c'est tout. Il y a des malaises. Voilà, moi, c'était ça avant, c'était, tiens, ben là, je ne suis pas bien aujourd'hui, sans savoir du tout pourquoi. Tiens, c'est comme ça. Aujourd'hui, je peux voir, ah ben oui, c'est parce que l'autre m'a dit ça. Tu vois, ça a provoqué voilà, un malaise à moi. Ou de la colère, quelque chose. Lorsque nous sommes touchés, nous réagissons par des mécanismes de défense. Automatiquement. Nous n'avons pas les mêmes non plus. Alors, il y a soit la fuite, bon, je dis rien, je me tais, je suis blessée, mais je me tais, ça passera. Soit je suis positive, c'est pas grave, j'en ai vu d'autres, il y a pire. Soit j'accuse l'autre. C'est très... Soit je peux m'accuser moi. Ah, je n'ai pas dit ce qu'il fallait, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Soit je justifie, soit j'explique, soit je pars dans le rationnel. Ah, ça, je suis très douée pour ça. Voilà, expliquer rationnellement ce qui s'est passé, mais pas être sensible à ce que je vis vraiment. C'est... Alors, je vais prendre un exemple. Voilà, moi, quand je suis dans un groupe, je pense à une personne en particulier, où il y a une dame assez sûre d'elle, qui, voilà, qui parle facilement, qui décide un peu pour les autres. Voilà, moi, c'est très, quelque chose de très difficile. Voilà, j'ai trop pensé à ma mère, inconsciemment, hein. Ça fait inconsciemment. Mais même des fois, il y a juste un tic sur son visage. Est-ce que je suis paralysée? Non, non, mais... Non, voilà, elle me regarde comme ça, c'est comme quand ma mère me regardait quand j'étais petite. Ça, c'est tout à fait inconscient. Sauf que je travaille dessus, sinon c'est inconscient. Donc, spontanément, je vais être dans l'accusation. Elle exagère, elle prend tout le pouvoir dans ce groupe. Voilà, c'est ça l'accusation. Si je reste là-dedans, je reste victime. Voilà, quand elle parle, quand elle décide, je me tais, je dis rien, et puis ben, continue. Pourquoi elle ne continuerait pas? C'est ça. Si j'en prends conscience, que moi c'est quelque chose qui me touche, que je suis paralysée voilà, quand j'ai une personne comme ça devant moi, je peux agir. C'est-à-dire, là, il faut que je réagisse. Si je ne dis rien, ben, on va décider en fonction de ce qu'elle dit. Voilà. Donc ma responsabilité à moi, c'est de dire. Sinon, je reste, cette personne est comme ça, voilà, elle décide tout. Ça fait avancer quoi? Rien du tout. Elle continuera, c'est son fonctionnement. Elle a appris ça parce qu'elle dirigeait 200 personnes, donc c'est normal. Voilà, elle continue tout à fait inconsciemment, hein, pas du tout consciente de ce qui se passe, de diriger un peu, mais oui, elle a fait ça toute sa vie. Elle est à la retraite, donc toute sa vie, elle a dirigé du monde. Donc voilà. Donc, notre responsabilité, c'est chaque fois, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Voilà. C'est moi, qu'est-ce que je vais faire? Elle, je ne vais pas la changer. Ça va être toujours son fonctionnement. Je peux le dire que ça me dérange. Voilà. Ou je peux m'affirmer beaucoup plus. C'est toujours le travail sur moi que je peux changer. Voilà. Même si je suis paralysée quand elle me regarde comme ça, je le vis. Puis un moment après, je peux dire. Si j'en ai pas conscience, je vais rester victime. C'est ce qui se passe, là. Je donne un exemple, mais on en a plein comme ça. Voilà. Quand l'autre fait ou dit quelque chose, ça nous renvoie, alors surtout quand c'est la hiérarchie, encore au plus. Parce que là, ça représente les parents, donc immédiatement, il y a un jeu qui se joue. C'est encore plus difficile. C'est pour ça qu'on critique toujours les directeurs et directrices dans nos stages. C'est toujours ça, parce que voilà, ça réveille des choses très souffrantes, souvent.
Vous les refusez?
Comment?
J'ai pas compris. Vous avez dit que vous les refusez, les directeurs, dans les stages?
Oui, on les refuse, c'est pas ce que j'ai dit, mais oui, on les refuse.
Ça me l'a rendu
ça. Je dis, les gens dans les stages se plaignent des directeurs, directrices, de la hiérarchie, chef de service et tout ça.
Ah oui, d'accord.
Enfin, c'est problématique, mais c'est parce qu'il y a cette position qui est difficile. Et ça alimente les conflits, quoi. Je dis, toutes nos blessures, parce que l'autre en a aussi. Voilà, moi j'ai les miennes, mais l'autre en a aussi. Voilà. Si on n'en est pas conscient, voilà, c'est ce qui crée beaucoup de conflits. Parce que, ben oui, on est énervé, on est agacé par des comportements que l'autre n'est pas agacé. Voilà, l'autre personne s'en fiche, hein, qu'il la regarde comme ça, ou qu'il lui parle comme ça, ou que. Voilà, mais moi en tout cas, voilà, ça peut me blesser. Plus on en est conscient, plus c'est facile à démêler. Sinon, hop, je projette sur l'autre, c'est la faute de l'autre, il est comme ça, de toute façon je ne peux rien faire, il est comme ça. Mais je suis dans l'impuissance dans ces cas-là. Voilà, je termine là. Et voilà, s'il y a des questions, des partages aussi. Ah oui, il y a une pause avant.
Il y a une pause d'une dizaine de minutes, le temps de se
mettre les idées en place.
Merci beaucoup.